franceinter.fr.
Tout de suite, 3D, le journal. Bonjour Stéphane Paoli.
Bonjour Dominique Delarois, nous allons parler des robots. La revue pour la science consacre dans son numéro d'avril et juin un numéro passionnant aux robots. Les robots en quête d'humanité, c'est le titre de la revue. Évidemment, c'est une question qui interroge l'emploi dans notre pays. Mais pas seulement, aussi la grande question ontologique. Qui décidera de quoi et quand ? Les choses s'accélèrent très vite, on va voir ce qu'il en est. Aujourd'hui, ce sont Valentin Hazan, et David de Federman qui pilotent le studio 621. C'est Catherine Rosier qui réalise l'émission et c'est Camille Blanès qui m'a aidé à la préparer.
3D. Le journal de Stéphane Paoli. France Inter.
Et donc les robots sont parmi nous, pour en parler, Romain Lucaso. Bonjour Romain Lucaso.
Bonjour.
Vous êtes manager chez Roland Berger, co-auteur d'une étude intitulée « Les classes moyennes face à la transformation digitale » qui est parue récemment, en octobre 2014. Roland Berger, c'est un think tank allemand, n'est-ce pas ?
Alors, Roland Berger, c'est un cabinet de conseil en stratégie allemand. C'est d'ailleurs le seul cabinet de conseil en stratégie européen, les autres sont américains. Au sein de ce cabinet de conseil, nous avons un think tank qui s'appelle le Roland Berger Institute et qui est dédié à la production de rapports sur des grands sujets économiques.
Et on va parler avec vous notamment de l'emploi et des questions posées à l'emploi par l'émergence des robots. À vos côtés, Frédéric Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur en informatique, directeur de recherche à l'INRIA, qui est l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, et vous êtes directeur du projet Mnemosyne à l'Institut des Maladies Neurodégénératives de Bordeaux. Je vous poserai tout à l'heure la question, la question de l'intelligence s'agissant des robots. Et puis Gérard Dubé, bonjour et bienvenue à vous aussi.
Bonjour.
Merci pour votre présence. Professeur de sociologie à Télécom, école de management et chercheur au Centre d'études des techniques, des connaissances et des pratiques. C'est l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et puis Aurore Vincenti, bonjour Aurore.
Bonjour Stéphane.
Avec, comme d'habitude, en préambule, le mot qui va peut-être un peu orienter l'émission.
Oui, mais est-ce que vous me permettez une petite digression politique ?
Oui, j'adore les digressions politiques quand c'est vous qui les faites.
Très bien. Alors on va commencer avec Nicolas Sarkozy, qui lors du premier congrès des Républicains a évoqué la terrifiante médiocrité, je cite, « terrifiante médiocrité du président de la gauche en général ». Alors, c'est intéressant cette expression « terrifiante médiocrité ». Elle joue sur deux aspects. Terrifiant, c'est la peur, l'inquiétude qui s'est fait une place dans le discours politique, dans tous les discours politiques de tous bords. Et qu'y a-t-il de terrifiant ? La médiocrité. Et là, je vous le dis tout de suite, c'est Horace qui se retourne dans sa tombe. À l'origine, c'est merveilleux, la médiocrité. La médiocritas, c'est le milieu, le juste milieu, la modération, la justesse, la balance de la justice. Terrifiante médiocrité, c'est un oxymore. Ça revient à dire terrifiante justesse. Pour Nicolas Sarkozy, il fallait faire résonner deux mots, terrifiant et gauche. Eh bien, pari réussi, et c'est terrifiant ce qu'on fait dire aux mots. Mais face à cela, le mot du jour, intelligence. L'intelligence...
Ah, quel grand écart.
L'intelligence, elle commence dans les champs, ou alors en pleine forêt. Vous savez, quand les jacinthes sauvages tapissent les sous-bois, on aurait presque envie de se rouler dedans. C'est beau, c'est tellement beau, on ne sait plus comment embrasser une telle vision. Il y a les coquelicots dans les blés, les bleuets, les primes verts, les aspérules odorantes. On ne sait plus où donner de la tête, l'ivresse nous emporte, mais il faut choisir. Comment garder un peu de cela avec soi ? Comment le rapporter chez soi ? Mais tiens, on pourrait faire un bouquet ? Le bouquet, c'est le début de l'intelligence. Vous vous dites, la pauvre fille, elle déraille. Oui, peut-être, mais c'est le mot lui-même qui le dit. Le latin « legere » dans « intelligence ». Il signifie « cueillir »,« ramasser ». Et ce bouquet est le fruit d'un choix suivi d'un assemblage ordonné. On pourrait classer la cueillette des fleurs dans la catégorie des sciences humaines. Et cet assemblage se joue à nouveau dans le préfixe « inter ». Inter, legere, intelligence. Ce que l'on a dans intelligence, cet inter, ce préfixe, sert à tisser, à lier. Il donne du liant. Peut-être que c'est là que se situe la grande plasticité du cerveau. On peut penser aussi que ce liant travaille à relier quantité de choses, d'abord au cœur du sujet. L'intelligence travaille à ne jamais laisser la pensée désincarner. Alors certains disent qu'il y a différentes sortes d'intelligence, celle du cerveau, celle du cœur, ben, pourquoi pas après tout. J'ai tendance à croire qu'il est plutôt question d'unifier tout cela, en l'incarnant. Et puis l'autre lien que l'on entend dans inter, c'est le lien entre les objets de la pensée. L'intelligence tisse. Elle se fait araignée sur sa toile. Elle lit et relit, du verbe lier, mais aussi du verbe lire. Et oui, le verbe latin a donné un verbe français que vous connaissez bien, lire. La lecture peut s'apparenter à une cueillette de mots, puis à leur recueillement, ce qui permet ensuite de saisir quel sens se trame dans leur réunion. Mais alors, qu'est-ce que l'intelligence ? J'ai déjà parlé de la cueillette, de l'agencement, du lien. C'est aussi la faculté d'entendre et de comprendre. L'intelligence cueille et accueille. La question que je me pose est la suivante. Peut-on délocaliser l'intelligence, la sortir de l'humain ? Y a-t-il une intelligence animale, une intelligence végétale, cosmique peut-être ? Et puis aujourd'hui, petit entretien avec les robots, on parle d'intelligence artificielle, certes, mais peut-on parler d'intuition artificielle, d'intentionnalité artificielle, de sensibilité artificielle ? Alors messieurs, je vous refile le bébé.
Avant d'attaquer le bébé, voyons quand même ce que Caroline Cartier fait de ces questions. Alors certes, les robots ne sont pas prêts d'entrer au Panthéon. Mine de rien, et grâce à Caroline Cartier, on va découvrir que Germaine Tillon sait aussi parler des robots.
Je suis très angoissée,
Germaine Tillon,
par la façon dont se développe la survie de la petite boule sur laquelle nous vivons.
L'histoire nous transmet l'éminente responsabilité d'être à la hauteur du passé, à la hauteur des défis d'aujourd'hui et de demain.
Des robots à la place des humains. À l'usine, dans les rayons de supermarché, à l'accueil et même dans la police, des robots à la place des humains. Ce scénario n'est qu'une fiction pour le moment. Car d'après une étude, les automates pourraient prendre notre place au travail et même supprimer 3 millions d'emplois en France d'ici 10 ans.
Être à la hauteur du passé. Vous êtes auréolés du respect des peuples du monde qui, comme le 11 janvier, partagent avec le nôtre le même amour de la liberté. Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Antonio, Germaine Tillon, Jean Zay, prenez place ici. C'est la vôtre.
Je suis très angoissée. Il est indispensable à la survie de la Terre d'investir dans l'enseignement. Il faut que filles et garçons puissent développer tout ce qu'il y a d'humain en eux.
Des robots à la place des humains.
Sur la chaîne, l'OS, l'ouvrier spécialisé, est là de devoir accomplir les mêmes gestes répétitifs pendant des heures et des heures d'affilée. Alors n'était-il pas normal de mettre à sa place une vraie machine pour que l'individu, lui, ne devienne jamais un robot vivant ? L'individu...
Tout ce qu'il y a d'humain en eux.
Un robot vivant.
Plus d'un actif sur 10, 3,2 millions de salariés seraient en situation de travail excessif et compulsif, donc de burn-out. Okay.
L'individu, une vraie machine.
La survie.
Face à son collègue fait de chair et de sang et surtout de nerfs fragiles, le robot a l'avantage d'être infatigable.
Le crime de notre temps sera la clochardisation des trois quarts de l'espèce humaine, actuellement en cours sur toute la surface de la Terre.
D'être à la hauteur du passé, à la hauteur des défis d'aujourd'hui et de demain.
La survie de la petite boule sur laquelle nous vivons.
Voilà, Germaine Tillon qui s'inquiétait de la survie de la petite boule. Romain Lucaso, manager chez Roland Berger et co-auteur donc de cette étude intitulée « Les classes moyennes face à la transformation digitale » parue il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Nous avons toujours connu, au 19e, au 20e, des, ce qu'on appelle des révolutions industrielles. Mais là, on entend Germaine Tillon qui s'inquiète. Ce que nous vivons maintenant, cette troisième révolution industrielle, celle dite de la digitalisation, menace-t-elle notre humanité ? Je veux dire notre humanité au sens la capacité que nous avons à décider de notre vie, de notre sort, de notre travail.
Je pense qu'on n'en est pas encore là, et c'est pas vraiment le sujet pour le moyen terme. Le sujet pour le moyen terme, c'est plutôt la remise en cause du modèle de développement économique qui est celui des sociétés occidentales, dont vous parlez, fondé sur des gains de productivité successifs qui ont permis de créer de la richesse. Ces gains de productivité se sont concentrés dans l'industrie principalement. On a réduit la place de l'industrie dans l'économie parce qu'on a créé plus de richesses qui s'est transférée vers les activités de services. Moins d'ouvriers, plus d'employés des services et plus de satisfaction d'un certain nombre de besoins plutôt tertiaires. La question que nous on pose, c'est dans un monde où un certain nombre de nouvelles technologies permettent de d'étendre cette dynamique de gains de productivité aux services, c'est assez nouveau ça, quel va être le mécanisme qui va permettre de continuer la croissance et de continuer la répartition de la richesse au sein des sociétés occidentales.
Il y a, ce qui est très très intéressant dans ce qui nous arrive, ce nous collectif et désormais planétaire, hein, c'est que 19e, bon, c'est un gros changement, mais c'est la vapeur. C'est un train qui avance, certes plus vite que le cheval, mais c'est encore quelque chose qui nous est facilement accessible. 20e siècle, ça accélère, moteur à explosion. Sans parler des moyens de communication qui se développent aussi, le téléphone à fin du 19e, la radio, la télévision au 20e, et maintenant la mise en réseau planétaire, donc une incroyable accélération. Ce qui caractérise une société, c'est la capacité qu'elle a à réceptionner un phénomène, un événement. Avons-nous eu le temps de réceptionner ce qui nous est déjà arrivé?
Alors, c'est une question intéressante. Si on prend la statistique publique, par exemple, elle n'a pas eu le temps de réceptionner ce qui nous est arrivé. Les gains de productivité dans l'industrie, c'est quelque chose d'extrêmement clair que la statistique publique sait très bien suivre. D'ailleurs, ils ont plutôt tendance à baisser en Europe. Les gains de productivité dans les secteurs des services, dans les secteurs tertiaires, c'est quelque chose qui est partout, sauf dans les statistiques. À partir des années 1980, on a un formidable phénomène d'automatisation de ce qu'on appelle les fonctions de back-office, les fonctions administratives dans les banques, les assurances, etc. Tout le monde sait qu'il y a eu des gains de productivité. Bien, ces gains de productivité, ils sont invisibles, jusqu'à une date récente, dans la statistique nationale. Pourquoi ? Parce que quand une banque automatise ses fonctions support, elle va libérer des effectifs qui vont permettre d'offrir plus de services à ses clients. Et donc ce phénomène d'augmentation, de croissance rapide du secteur tertiaire, il a caché en fait un phénomène sous-jacent qui était des gains de productivité massifs dans les secteurs des services. À la faveur de la crise, un certain nombre de ces gains de productivité se révèlent et on commence à voir des ratés dans cette dynamique de croissance de l'emploi tertiaire.
Alors il y a des chiffres en effet dans ce rapport dont vous êtes le co-auteur qui tout de même qui nous alertent un peu. Entre 1980 et 2012, les gains de production, ceux dont vous venez de parler, ont tout de même entraîné 64% de réduction d'emploi. Donc quand on voit ça, on se dit mais mon Dieu, que va-t-il nous arriver maintenant que il ne s'agit plus d'automates, mais je cite les mots parce qu'ils sont assez intéressants. Il ne s'agit plus d'automates, il s'agit désormais de machines apprenantes. Ce n'est pas du tout la même chose, un automate et une machine apprenante.
Alors, ce n'est pas la même chose. On se focalise souvent dans les médias sur la question du robot, parce que c'est la chose la plus concrète qu'on puisse montrer au public en termes de substitution entre le travail et le capital. En fait, le sujet est beaucoup plus large. Il concerne les logiciels, les choses qui sont invisibles et qui permettent effectivement de faire des gains de productivité, c'est-à-dire de réduire le nombre de personnes dont vous avez besoin pour créer la même quantité de richesse. Ensuite, l'entreprise a le choix entre faire plus avec le même effectif ou faire autant avec moins d'effectifs. Et là, il y a un impact sur l'emploi. Donc, c'est une vraie transformation. Si on prend les grandes dynamiques à l'œuvre en termes de technologie, il y a trois phénomènes majeurs en termes d'automatisation. Donc automatisation, qu'on parle de robots ou qu'on parle de logiciels. Le premier, il est connu. C'est le fait qu'on va continuer encore à réduire l'emploi industriel parce qu'on a des nouvelles technologies de production liées aux objets connectés, liées à l'utilisation du big data, la maintenance prédictive, etc. Et ces choses-là vont continuer à réduire les emplois qui traditionnellement sont très automatisables, des emplois de col bleu. Il y a un deuxième phénomène qui est assez nouveau et qui est le phénomène de sortie des robots de l'usine. Je m'explique. Si vous prenez une usine, c'est un endroit qui est assez artificiel, où il y a des bandes jaunes, des bandes rouges. vous êtes un humain, vous n'avez pas le droit d'aller dans certains endroits, parce que l'usine est conçue pour la mise en œuvre de la chaîne de production, pour le travail du robot. Avec les développements technologiques qu'on voit, l'effondrement du prix des capteurs, le traitement de la donnée massive, on va avoir de plus en plus des machines qui vont être assez autonomes et qui vont sortir de l'usine pour se déployer et pour faire du travail dans des environnements non artificiels. Un exemple extrêmement frappant, c'est le déploiement d'un robot qui s'appelle TUG, qui est créé par l'entreprise Aeton aux États-Unis, dans 140 hôpitaux. Et ce robot, qui est un cube avec des roues, hein, pour le dire vite, et plein de capteurs, il est capable de se balader de façon assez autonome dans les couloirs pour transporter des palettes lourdes de médicaments ou de nourriture. Un hôpital, c'est pas un endroit artificiel, c'est pas un endroit organisé pour le robot. C'est un endroit organisé pour le patient. Il y a des gens qui courent. Bah, ce robot, il fait très bien son travail. Donc là, vous avez une activité, pas un métier, mais une activité, la manutention des derniers mètres dans le secteur hospitalier, dont on voit qu'il y a un potentiel de remplacement assez fort par des machines. Et il y a un troisième phénomène qui, lui, est encore plus nouveau et encore plus surprenant, et sur lequel nous, on a voulu mettre l'accent, c'est pour ça que ce rapport parle des classes moyennes, qui concerne les cols blancs. Ça tourne autour du sujet, non pas du remplacement, mais des gains de productivité massifs qu'on voit poindre dans un certain nombre de tâches dont on se disait jusqu'à maintenant que c'était des tâches administratives, intellectuelles, et donc il n'y avait pas de sujet de gain de productivité. En réalité, ce qu'on constate, c'est qu'avec le développement du big data, du cloud, du big data, de la machine apprenante, des choses comme ça, il y a des gains de productivité massifs qui peuvent se faire dans certains métiers qui, certes, sont intellectuels, mais sont assez répétitifs. Courtier en assurance, auditeur, ces deux exemples assez frappants qui permettent de voir qu'effectivement, il y a des gains de productivité dans des métiers de classe moyenne et qui traditionnellement étaient des métiers plutôt préservés par ces sujets-là.
Donc ça veut dire tout de même que ce paysage dans lequel nous évoluons tous, qui est celui du travail, de l'emploi, en gros le paysage de la cité, ne va pas changer. Il a déjà commencé à changer et peut-être que nous ne le mesurons pas encore suffisamment. Ce que vous décrivez là va créer... quoi, dans les 20 ans qui viennent, une diminution importante d'emplois. On peut la mesurer ou pas?
Alors, c'est le paradoxe de cet exercice, c'est qu'on peut mesurer les destructions d'emplois, mais on ne peut pas mesurer les créations d'emplois.
Car il y en aura, évidemment.
Il y en aura, évidemment. Lorsque vous remplacez une fonction, par exemple, dans un cabinet d'avocats, vous remplacez la recherche qui était traditionnellement faite par des assistants juridiques par du logiciel, il y a quelque part de la destruction d'emplois. La conception du logiciel, son développement, sa commercialisation, la mise en place de nouveaux services aux clients, ça crée de l'emploi. La difficulté de cette situation, c'est qu'on sait combien d'emplois vont être détruits, on sait où ils vont être détruits, quelles compétences vont être frappées, mais on ne sait pas quels sont les nouveaux emplois qui vont les remplacer. Et là où il y a une autre difficulté, c'est que ces emplois ne sont pas substituables les uns aux autres. Si je prends un exemple un peu intuitif, parce que c'est en cours et tout le monde y participe, si vous êtes dans la Creuse et que vous allez chez le libraire pour acheter un livre, et si vous achetez un livre chez Amazon, vous n'allez pas mobiliser les mêmes compétences. C'est-à-dire que le libraire qui perdra son travail parce que vous achetez des livres sur Amazon, il ne va pas se transformer en web designer pour Amazon. Et donc vous avez une problématique géographique et aussi une problématique de compétences. Et donc ça implique une véritable réflexion collective, qui dépasse même d'ailleurs le cadre français, sur comment on fait pour faire passer les gens d'un certain type de métier à un autre.
Mais donc ce sont prioritairement les classes moyennes qui, compte tenu du fait qu'elles sont surtout exerçant leurs activités dans le domaine des services, qui seraient menacées par l'émergence de ces outils.
C'est un phénomène nouveau qu'un certain nombre de métiers, qui sont des métiers intellectuels, d'encadrement intermédiaire, juridique, administratif, vont ressentir des gains de productivité. C'est assez nouveau. Après, il va y avoir une poursuite de l'automatisation qui va impacter à la fois l'école bleue et les métiers de service à moindre contenu intellectuel. Mais ça, c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Le fait nouveau, c'est effectivement la diminution de l'emploi, l'impact en termes de gains de productivité sur l'emploi des cols blancs.
Mais alors, ce qui est très intéressant et peut-être très difficile, c'est que il faut que notre appareil industriel soit adapté à ce changement de paradigme. Mais quand vous me dites qu'on sait à peu près quels sont les emplois qui vont disparaître, mais qu'on ne sait pas encore quels seront les emplois nouveaux, comment essayer de modifier notre outil de production en le mettant dans la meilleure direction possible ?
Alors, si on prend l'exemple de l'industrie, on n'est pas exactement dans l'industrie, là, on est aussi dans les services. Mais si on prend l'exemple de l'industrie, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau mondial, les pays qui gardent un socle industriel important, voire très importants, beaucoup plus que la France, sont aussi les pays qui ont accepté le jeu de l'automatisation. C'est l'Allemagne en Europe, c'est le Japon et la Corée du Sud en Asie, qui sont des pays où le taux de robots par 100 000 ouvriers est beaucoup plus élevé qu'en France. Quand je dis beaucoup, c'est 5 fois plus pour l'Allemagne et c'est 15 fois plus pour le Japon et la Corée, voire plus. Ce que ça veut dire, c'est que vous maintenez des emplois, vous générez de la compétitivité pour les secteurs lorsque vous acceptez effectivement ce jeu de l'automatisation, parce que c'est assez bon pour les entreprises, ça permet d'être compétitif à l'international, ça permet de baisser les coûts, ça permet d'avoir plus de flexibilité dans la production. Mmh. Et paradoxalement, ces pays qui sont beaucoup plus robotisés ou automatisés dans leur secteur industriel, mais ça va être pareil pour les services, sont aussi ceux qui ont plus d'ouvriers. Et paradoxalement, nous, on a plutôt traîné pour automatiser l'industrie et on a perdu beaucoup d'emplois industriels.
Alors, vous distinguez tout de même quatre grands domaines où les créations d'emplois peuvent être importantes. Le premier d'entre eux, évidemment, ce sont d'abord les nouvelles technologies. C'est-à-dire qu'elles sont elles-mêmes porteuses de nouveaux métiers, j'imagine.
Alors, les nouvelles technologies sont porteuses de nouveaux métiers avec une difficulté, c'est que notre système de formation initiale et continue en France, il n'est pas totalement en ligne avec les besoins de cette nouvelle économie. Et c'est vrai pour les trois autres secteurs que vous citez. Comment dire ? En France, on est soit un technicien, un analytique, un scientifique, soit un commercial, quelqu'un qui fait du front office de la relation client. Ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer de plus en plus, c'est que les emplois du futur sont des emplois qui amalgament ces deux dimensions. Vous serez à la fois quelqu'un qui interagit avec votre client, ou si vous êtes dans une administration, parce que c'est pareil dans l'administration, avec les usagers, vous devrez comprendre comment fonctionne le système d'information derrière, vous devrez être capable de maîtriser la dimension IT, l'architecture IT, qui sera de plus en plus un facteur critique dans la production du service, du bien, etc. Et ça, ça implique d'être capable un peu de marcher sur ses deux jambes, entre guillemets.
Si mais ça implique surtout une beaucoup plus grande plasticité, on va parler du cerveau tout à l'heure, une plus grande plasticité, une beaucoup plus grande adaptabilité, et plus rapide aussi, j'imagine.
Ça demande à la fois une plus grande plasticité, une plus grande adaptabilité, et la mise en avant de caractéristiques ou de capacités qui relèvent plus du relationnel et de la créativité que dans le passé. C'est-à-dire, effectivement, le stock d'emplois assez mécanique, assez répétitif, va progressivement s'amenuiser au fil du temps. Et ça, c'est vraiment une dynamique de fond de l'histoire. Ce qui signifie que les emplois de demain seront des emplois où le contenu de créativité, la capacité à s'adapter, la flexibilité mentale seront mises en avant. Et ça, c'est une caractéristique que notre système de formation ne porte pas forcément au pinacle.
Il est temps qu'ils s'y mettent. Hein. Oui. Il est temps qu'ils s'y mettent. Parce qu'en plus, c'est une magnifique porte là, qu'on est en train d'ouvrir. Une porte ouverte sur la créativité, c'est stimulant et motivant pour tout le monde.
Tout à fait. Si on peut donner un exemple, si vous prenez l'exemple des médecins, il est évident que demain, il y aura plus de médecins qu'aujourd'hui. Donc, l'automatisation ne va pas diminuer le nombre de médecins. En revanche, les médecins seront plus équipés en logiciels qui permettront de les appuyer sur le diagnostic et de les appuyer sur la recherche du bon médicament en fonction du diagnostic. Ce qui signifie que, alors qu'aujourd'hui, votre médecin, vous le voyez un quart d'heure, il passe 14 minutes à chercher vos symptômes, le diagnostic et la prescription, on peut s'attendre à ce que dans le quart d'heure qu'il vous consacrera à l'avenir, il va passer 5 minutes, 10 minutes à faire quelque chose qui a très forte valeur ajoutée en réalité, qui est de vous écouter, de vous parler, de créer du lien, et qui sera sans doute quelque chose d'assez satisfaisant pour le patient. Donc l'automatisation, le logiciel, c'est ça aussi. Et c'est une dimension qui doit vraiment être mise en avant, qui doit être expliquée, parce qu'il y a un formidable potentiel de renouvellement des relations au sein de la société en lien avec ça.
Pas mal, hein, parce que le premier quart d'heure, on finit sur un point positif, Aurore.
Oui.
Il y a un mot que j'ai oublié de vous demander de nous décrire un peu. Robot, ça vient d'où, robot ?
C'est un mot bizarre, slave. Robot, quand même. En fait, c'est un mot qui a été employé dans la littérature, enfin dans la science-fiction, et qui est entré dans le langage commun. C'est du slave. Robota, ça signifie le travail forcé. Mais moi, ce qui m'a frappé, et je vais jouer non pas au Robocop, mais au Bad Cop, c'est que vous avez répété un nombre de fois incalculable le mot productivité, et il ne date pas d'hier. La productivité, elle est rentrée dans le champ de l'économie dès le 19e siècle. Enfin, c'est pas une nouveauté. Mais le nombre de fois où vous l'avez prononcé, je me suis vraiment dit, il y a ce pro qu'on a aussi dans la programmation, ce pro qui est déjà dans l'avenir alors qu'on est encore dans le présent. Ben, C'est un poncif, hein, c'est une espèce de lieu commun de dire que ça s'accélère, mais qu'est-ce que ça s'accélère?
Ah oui, ça, c'est un phénomène évident, non,
l'accélération. C'est un lieu commun en réalité. Mais enfin, bon, le langage parle quand même.
Alors voyons maintenant avec vous, Gérard Dubé, professeur de sociologie à Télécom, école de management, et chercheur au Centre d'études des techniques, des connaissances et des pratiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ce que tout de même, ce choc incroyable que nous recevons, cette accélération inouïe, j'ai trouvé en préparant l'émission des anecdotes intéressantes. 1780, à Leicester, en Grande-Bretagne, un monsieur qui s'appelle Ned Ludd décide de supprimer deux métiers à tisser. Il les détruit. Et ça déclenche un bazar incroyable. Déjà, on est dans un phénomène comparable.
Vous évoquez le mouvement des ludites en Grande-Bretagne, hein, ouais. Au début du fin 18e, début 19e siècle, et qui s'est terminé dans le sang, puisque Ned Ludd et ses compagnons tisserands, artisans tisserands, ont tous été pendus haut et court.
Donc, ils ont été pendus.
Ah oui, ils ont été exécutés. Et donc, vous avez raison de revenir à ça, parce que finalement, la robotique, telle qu'on la conçoit actuellement, il faut la replacer dans une perspective historique, certainement, sur la longue durée. Il faut la relier, comme ça a été fait tout à l'heure d'ailleurs, aux mécanismes et aux processus d'automatisation, qui sont pas tout récents.
C'est la fin des années 70, l'automatisation à peu près. Hein.
Je pensais là à l'automatisation, les premiers métiers à tisser, automatisés dont on parlait avec lui.
Vous remontez loin dans l'histoire, en effet.
Ce contre quoi se défendaient les ludites, c'était justement la confiscation, finalement, la spoliation de leur savoir-faire. C'est-à-dire de leur maîtrise du métier. C'était leur culture de métier qui s'en allait, avec un transfert de leur culture et de leur savoir-faire sur la machine. Et finalement, bien plus tard, avec les débuts de la robotique industrielle, là, on pense plutôt à Engelberger dans les années 60 pour General Motors, hein, c'était le robot Unimet, hein, pour l'industrie automobile essentiellement. Il est dans le même raisonnement. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de documents, de témoignages, même audio d'Engelberger qui sont tout à fait passionnant par leur prosaïsme, hein. C'est quelqu'un d'extrêmement pragmatique, hein. Il dit, un robot, c'est évidemment prévisible, prédictible, ça va permettre de réguler de façon prédictible la production, il y aura plus de grève, évidemment. Si on peut utiliser la robotique pour plutôt confisquer, accaparer le savoir-faire d'un ingénieur plutôt que d'un balayeur, ça sera certainement beaucoup plus rentable. Parce que former un ingénieur et payer un ingénieur, ça coûte beaucoup plus cher, évidemment, que payer un balayeur ou un ouvrier à la chaîne. Donc il avait déjà anticipé ce dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'automatisation du savoir intellectuel, du savoir des cols blancs. Il ne s'agit pas seulement des cols bleus. Alors ce processus d'automatisation, de transfert, d'extraction, des savoir-faire manuels au départ, ça commence bien avant Taylor, mais Taylor va radicaliser, formaliser ça, et ensuite Ford pour le travail manuel, eh bien cette idée d'extraction et de transfert des savoir-faire sur des dispositifs machiniques, c'est quelque chose qu'on va voir se mettre en place maintenant dans le domaine des activités intellectuelles, des activités du tertiaire. Un expert artificiel, il est construit sur la base d'une verbalisation de connaissances et d'expertise détenues par un expert qui n'est pas du tout un travailleur manuel déqualifié. Donc le niveau de qualification n'a rien à voir là-dedans.
Sauf que ce que vous décrivez est d'une importance considérable, et on va parler de ce qui va peut-être nous arriver ensuite. Vous venez de parler de Taylor, vous venez de parler de Ford, mais le taylorisme et le fordisme, c'est le socle de l'économie telle qu'elle s'est développée depuis le 19e et jusqu'à nos jours, jusqu'à ce que nous appelons maintenant le turbo-capitalisme. Donc, puisque ces outils, je les appelle encore des outils, on verra ce qu'il faut dire après, les robots restent encore pour l'instant des outils très perfectionnés, mais des outils, sont en train de changer complètement le paysage de l'emploi et de la qualification des uns et des autres. Est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de particulier dans le changement même de la forme de l'économie ?
Là, c'est une question qu'il faudrait poser à un économiste plus qu'à un sociologue. Moi, je constate simplement, si on pense en termes d'économie, je me souviens de ce que disait André Gors, bon, qui était un économiste certes hétérodoxe, dans les années 90. Il pensait justement que les gains de productivité, l'automatisation, la numérisation de la société, l'informatique, permettraient de libérer les humains de tâches ingrates, plutôt répétitives, déqualifiées, et pour libérer du temps à autre chose, c'est-à-dire libérer du temps à de la créativité, du travail intellectuel, mais aussi il pensait beaucoup aux activités d'aide à la personne, l'assistance aux personnes, donc aux activités plutôt relationnelles. Donc il avait un regard très très positif là-dessus. Or, ce que je constate, ce que j'observe aujourd'hui, en particulier avec le développement de ce qu'on appelle, on y reviendra sans doute tout à l'heure, les robots sociaux, les robots dits intelligents, les robots personnels, les robots d'assistance, enfin, il y a plein de qualificatifs pour ça. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ces activités d'assistance à la personne, ces activités relationnelles, ce sont elles qui sont aujourd'hui visées par le processus d'automatisation et de robotisation, et donc aussi de rationalisation. Donc, je ne dis pas qu'André Gorz s'est trompé, mais il n'a pas perçu, en tout cas, il n'a pas très bien perçu l'arrivée de ces transformations, de ces nouvelles machines. Il faut dire que les robots sociaux, on en parle surtout depuis les années 2000, hein, 2005, aux États-Unis. Mais bon, voilà. Donc, c'est une question supplémentaire que je propose
au débat. C'est une réalité qui déjà s'impose à nous. Je vais vous parler de ELI, E-2-L-I-E, aux États-Unis en milieu hospitalier. Ellie, c'est une psychologue virtuelle qui est capable, à partir des signes infimes qu'elle perçoit sur un visage ou des changements minuscules de tonalité dans une voix, de déceler, par exemple, une dépression ou une crise chez une personne. C'est un changement absolument invraisemblable.
Là, on s'adressera tout à l'heure à mon collègue qui est plus spécialisé.
Frédéric Alexandre.
Je pense qu'il faut faire très attention quand même aux effets d'annonce. On est dans un domaine où, évidemment, on a besoin de financer l'innovation, la recherche et développement. Donc, on a besoin d'effets d'annonce pour attirer l'attention du public et des investisseurs. Mais on est encore à des stades qui sont loin d'être opérationnels. Enfin, on est souvent dans des cadres très expérimentaux, y compris pour ces robots sociaux censés porter assistance, pouvoir assister au quotidien des personnes âgées, des personnes atteintes de troubles cognitifs, des personnes atteintes d'Alzheimer. Je crois qu'il faut être très, très prudent. Ce que vous me dites me surprend un peu, je veux dire. Enfin,
mais c'est un article très détaillé. D'ailleurs, que j'ai trouvé dans le dossier de pour la science, argumenté, mais qui donne le vertige. Nous sommes dans une révolution industrielle qui propose, on en a parlé d'ailleurs récemment aussi dans 3D, le fameux big data, la quantité absolument invraisemblable d'informations que nous devons traiter et qui devient de moins en moins accessible au cerveau humain. Et donc, ce sont les algorithmes et les supercalculateurs qui sont, en tout cas dans le champ de l'économie, pour y revenir, qui prennent les décisions. Le turbo-capitalisme, ce sont les algorithmes qui gèrent les transactions. Qu'en est-il de nous, c'est-à-dire, pour le sociologue que vous êtes, de l'humain et de la part de la décision humaine?
Ah, la question de la décision que vous avez posée...
C'est une question philosophique, hein. Je veux pas...
Évidemment. Est-ce que la décision échappe aux humains? Ça, c'est... Je pense pas qu'il faille poser la question de cette façon-là. La décision, le pouvoir de décision se déplace, se délocalise, on va dire. Il reste profondément humain, c'est-à-dire qu'un robot constitué de logiciels, d'algorithmes, comporte des finalités et des intentionnalités qui sont déposées par des êtres humains, ceux qui conçoivent ces machines. Donc l'humain ne disparaît pas au sens propre. Il y a un déplacement. Ensuite, ça implique certainement, par rapport aux utilisateurs qu'on appelle finaux, aux opérateurs de première ligne, ça implique évidemment une profonde transformation de leur métier, puisque ce sont effectivement des algorithmes ou des logiciels qui vont prendre un certain nombre de décisions, de façon plus ou moins transparente d'ailleurs, à leur place. Donc là, il y a bien un processus de délégation et de transfert qui s'opère. Mais pour ceux qui conçoivent ces machines, ces algorithmes, ces logiciels, on ne peut pas parler de perte de contrôle ou de perte de pouvoir décisionnaire. Au contraire, ils décident, mais finalement, ils décident presque par procuration. Je me souviens très bien lors de l'introduction de ce qu'on a appelé les glass cockpits, c'est-à-dire les avions de nouvelle génération qui sont équipés de centaines d'ordinateurs. Lorsqu'on est passé finalement d'un pilotage classique, analogique, à un pilotage assisté par des ordinateurs, par des systèmes experts, les pilotes parlaient du troisième homme à bord qui avait disparu. Le troisième homme à bord, c'était le mécanicien navigant, et il avait disparu du fait de l'introduction de ces nouveaux automatismes et de ces logiciels. Mais il disait qu'il y a toujours un troisième homme à bord, ce sont les ordinateurs. Et les ordinateurs, ce sont les ingénieurs d'Airbus Industries. Il dit la seule différence, c'est qu'ils ne sont pas vraiment à bord. Voilà. Mais ils prennent des décisions. Et ils prennent des décisions, parfois, qu'on ne comprend pas forcément. Dans certaines situations, phase critique, il peut y avoir des ambiguïtés et des logiques contradictoires qui se heurtent. Alors voilà, je crois que c'est plutôt de cette manière-là qu'il faut poser la question de la décision. Ensuite, pour la place de l'humain, on peut avoir des positions pessimistes, comme celle de Günther Anders, par exemple, qui, philosophe, c'était le premier mari d'Anna Arendt, mais Anna Arendt elle-même d'ailleurs. Mmh. Dès les années 50, Anders, en 54 ou 56, il publie un ouvrage considérable qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme », où il traite finalement de cette question d'une disparition programmée de l'humain. Alors on peut adopter ce point de vue assez radical, mais je pense que c'est plutôt une certaine définition de l'humain, une certaine représentation de l'humain qui disparaît, que l'humain tout court, évidemment.
Bien sûr. Vous permettez que je vous décrive la situation dans laquelle je me trouve à l'instant où je vous parle devant vous. Vous êtes en face de moi, nous échangeons ensemble, mais j'ai aussi sous les yeux un écran d'ordinateur. Et sur cet écran d'ordinateur, seconde après seconde, tombent des informations. La situation dans laquelle je suis impliquerait que je sois capable de gérer ça. C'est impossible. Il n'existe pas un seul journaliste au monde capable de gérer une telle situation. D'où d'ailleurs, de mon point de vue, la vacuité de l'information continue, ce qui, de mon point de vue, n'a aucun sens. Donc voilà, nous sommes là.
C'est l'information continue ou discontinue, parce que c'est un temps morcelé, en fait.
Qui malheureusement est aussi assez souvent du n'importe quoi. Donc nous sommes dans ce temps-là. Nous sommes dans ce temps-là. Et j'imagine que pour le sociologue, il y a une vraie question. Nous avons inventé des outils, et maintenant des robots, qui accélèrent tous les process et qui nous rendent, en tout cas, c'est mon cas, dans l'incapacité absolue de gérer et de réinscrire une information à l'instant où elle tombe. Parce qu'elle s'inscrit aussitôt dans une continuité et que je n'ai pas le moyen de gérer cette continuité ni de la comprendre aussitôt. Nous sommes là-dedans.
Vous voulez dire que l'information s'autonomise ? Elle s'autonomise, vous n'avez plus de prise sur elle. C'est quelque chose qui vit sa propre vie.
Donc est-ce qu'elle va se gérer toute seule bientôt ? Il y a déjà des robots qui gèrent l'information.
Et donc quel sens elle peut avoir ? Quel sens elle peut prendre ? Si on ne peut plus la remettre dans un contexte, la replacer dans un processus historique, effectivement. Moi, je pensais à autre chose par rapport au temps, à la question du temps qui me semble-t-il décisive. Alors, je vais faire un grand détour. Sherry Turkle, qui est une psychologue du MIT, américaine très célèbre, qui s'intéresse depuis longtemps aux relations, entre autres, des adolescents avec nos nouvelles machines, nos nouveaux dispositifs d'information et de communication. Elle a commencé avec les ordinateurs, avec les expériences ELISA dans les années 70, les transferts d'émotions sur les machines, enfin, elle s'est intéressée à toutes ces questions. Elle a publié une enquête récemment, une énorme enquête, en 2012, qui s'intitule « Seul ensemble », où elle revient sur un certain nombre d'hypothèses qu'elle avait formulées il y a une trentaine d'années. Elle était plutôt optimiste au départ. Elle pensait que tous ces outils-là, un peu comme André Gorz, allaient nous libérer du temps pour justement des activités plus relationnelles, pour construire un monde finalement, plus humain, on va dire. Et là, elle revient sur ces hypothèses avec une certaine inquiétude, et en nous disant que la question qu'elle se pose, c'est pourquoi sommes-nous aujourd'hui, semble-t-on, prêts à accueillir des machines pour établir des relations sociales, voire amicales, avec elle. Qu'est-ce qui a fait qu'en 30 ans, on est passé de robots industriels à des robots dits sociaux, qu'on serait prêt à accueillir chez soi, en établissant une forme de complicité avec elle
C'était le sujet de ce film Her, avec Scarlett Johansson, qui était cette voix de femme, et cet homme, je crois que c'était Joaquin Phoenix, qui était charmé, qui tombait amoureux d'une voix, d'un ordinateur.
C'est le surgissement de l'affect dans la relation aux objets, tout à coup.
Voilà, des robots, des machines avec lesquelles on aurait des relations affectives. Alors certains répondront qu'on peut avoir des relations affectives avec son automobile, par exemple. Ce sont des projections, des transferts, évidemment.
Mais son automobile, c'est un peu soi.
Mais la question qu'elle se pose est celle-ci. Elle dit que elle observe, elle a beaucoup travaillé, enquêté dans les maisons de retraite dans lesquelles on a expérimenté des robots compagnons, des robots sociaux. Et une de ses hypothèses, c'est que finalement, tout cela est permis parce que les relations réelles, les relations sociales réelles, quotidiennes, ordinaires, se sont quelque part dégradées. Et que quelque part, on est entré dans un rapport de défiance. Il y a une certaine lassitude vis-à-vis des relations réelles humaines. Et ça, c'est très lié, elle le dit clairement, explicitement, c'est très lié aussi au productivisme dont on parlait tout à l'heure. cette accélération dont on parlait, c'est-à-dire le fait qu'on n'a plus le temps d'accorder de l'attention à autrui. Alors, qu'est-ce qu'on demande à ces machines ? Elle parle aussi de la relation des adolescents avec les smartphones. Qu'est-ce qu'on attend de ces machines ? C'est de l'attention, finalement. L'attention qu'on ne peut plus avoir, qu'on ne peut plus... auquel les personnes, les proches, ne répondent plus, eh bien, on va les rechercher auprès de ces machines. Donc, il y a tout un contexte, un préalable, des conditions, des dégradations des relations sociales qui font que nous sommes prêts aujourd'hui à accepter ce type de machine dans notre environnement quotidien et familier. Et je crois que c'est ça la vraie question, c'est la manière dont ces machines-là interrogent notre société, notre époque, la façon dont on se représente l'humain, sa place dans la société et les relations sociales. Je l'utilise comme un analyseur
bien
social.
Bien sûr. Voilà. On va regarder ça de plus près avec Frédéric Alexandre. Un ou deux mots encore, Aurore, qui vous auront accroché.
Mais ces machines qui remplacent l'humain, qui supplantent l'humain, en fait, c'est ce que voulait dire l'automate. Enfin, progressivement, le mot automate qui apparaît assez tôt. Il apparaît chez Rabelais, d'ailleurs. Mmh. Dans Gargantua, on le voit pour la première fois. Il parle d'automates, de petits engins se mouvant eux-mêmes ou quelque chose comme ça. Et en fait, c'est au XVIIIe siècle que ça qualifie des petits engins, mais qui ont une forme humaine. Donc, ils viennent d'une certaine façon remplacer l'humain ou le supplanter. Et alors, quelle est la différence réelle entre automate, robot, androïde ou humanoïde plutôt ? Alors honnêtement, tous ces mots-là, il y en a beaucoup et ils veulent à peu près tous dire la même chose, mais je pense qu'il y a des subtilités. Ça, en tout cas, c'est intéressant de les considérer tous dans leur spécificité.
Frédéric Alexandre, vous êtes, vous, ingénieur en informatique, directeur de recherche à l'Institut National de Recherche en informatique et en automatique, et vous dirigez le projet Mnemosyne à l'Institut des maladies neurodégénératives de Bordeaux. Première chose, pour prolonger peut-être ce que disait à l'instant Gérard Dubé, puis Aurore, de plus en plus, ces robots sont à notre image. C'est un péché d'orgueil ou c'est pour faciliter la relation, justement, avec l'outil ?
Oui, je pense que le but, c'est principalement de donner une interface qui permette de faciliter la relation. Quoique, on montre aussi que si c'est trop proche, ça peut aussi susciter une espèce de rejet, parce qu'on va trouver une dissonance, justement, entre ce qu'on s'attendrait de la part d'une machine qui paraît humaine, et puis en fait, ce qu'elle va exprimer, où il y aura vraiment des déficits qui va faire qu'on va se méfier, et donc finalement qu'on va rejeter cette machine-là. Donc souvent, finalement, c'est préféré utiliser quelque chose de plus simple et plus caricatural, justement parce que la relation passera mieux.
Alors, on a plusieurs fois évoqué la question depuis le début de l'émission de l'intelligence. Sauf que l'intelligence, c'est quelque chose de très compliqué et elle est de différentes natures. Il y a quelque chose qu'on peut peut-être trouver dans le robot qui serait l'intelligence formelle ou les mathématiques, la logique qui a une certaine place. Mais il n'y a pas que ça dans l'intelligence.
Voilà, et je pense que le problème principal du débat est justement sur la pauvreté de la définition de l'intelligence quand on parle de machine, quand on compare avec l'intelligence du vivant. Faut pas oublier quand on le vivant, le but de l'intelligence et donc le but de votre système nerveux, c'est d'abord un but darwinien, c'est de vous faire survivre. C'est pas le plus fort qui survit, c'est le plus intelligent. Et donc finalement, le but de l'intelligence, c'est de vous rendre capable de survivre. Et pour ça, il y a deux grands aspects qui sont vraiment importants et indissociables. Le premier aspect, c'est comprendre le monde dans lequel vous êtes, l'analyser, dire qu'est-ce qui est bien pour moi, qu'est-ce qui est dangereux pour moi. Si vous êtes un animal social, quels sont mes congénères, quelles sont les relations que je dois avoir avec ces congénères-là. Déjà, au XVIIe siècle, Pascal avait définit cette notion et c'est ce qu'il appelait l'esprit de finesse. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence sociale ou l'intelligence émotionnelle.
Mais on mariait toujours l'esprit de finesse et l'esprit de géométrie, si ma mémoire est bonne.
Voilà, et donc l'autre aspect, c'est l'intelligence géométrique. En fait, c'est celle qui va nous permettre, une fois qu'on a réussi à définir quels sont les buts dans notre environnement et puis quels sont les dangers potentiels, à mettre en œuvre un raisonnement, une planification, une certaine logique, une analyse formelle effectivement de la situation pour prendre la meilleure décision, donc pour être capable d'être efficace et d'exploiter au mieux cet environnement-là. Et ce qui est vraiment important, et ce que Antonio Damasio avait montré dans les années 80 avec un livre assez célèbre qui s'appelait l'erreur de Descartes, c'est que justement les fonctions intellectuelles supérieures de l'animal et en particulier de l'être humain, donc qui correspondent correspondent à cette intelligence formelle, elles sont liées de manière très profonde avec notre intelligence émotionnelle, avec notre empathie, avec le ressenti corporel que l'on a des choses, avec les émotions. Et cet aspect-là, c'est ce dernier aspect-là qui est complètement oublié par l'intelligence artificielle. Et donc le problème est vraiment sur cet oubli.
Bien sûr, mais dans ce que vous venez de dire, qui est vraiment passionnant, vous dites qu'au fond, notre capacité à survivre, c'est d'abord de commencer à être capable de traiter un certain nombre d'informations. Qui suis-je, dans quel environnement, pour pouvoir y survivre? Or, nous sommes désormais dans le monde du big data, où la quantité d'informations à traiter dépasse assez souvent les capacités du cerveau humain. Donc, est-ce qu'il va y avoir un transfert comme ça de délégation vers la machine pour penser le monde à notre place et la quantité du monde à penser à notre place?
Alors, c'est justement pour ça que l'intelligence artificielle et ses progrès récents peuvent faire peur à certains. Il y a eu des pétitions à ce sujet, parce que effectivement, c'est ce qu'ils disent. Finalement, quand on regarde la capacité combinatoire ou la capacité de stockage, de traitement d'informations d'une machine, elle est bien supérieure à celle d'un être humain. Certes, mais en même temps, ça, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Enfin, vous savez depuis un certain nombre d'années qu'une calculatrice de poche est capable de faire une multiplication plus vite que vous, qu'un ordinateur peut stocker des quantités de films, etc. Et donc, effectivement, cet aspect qu'on a réussi à développer énormément avec la technologie moderne peut faire peur, mais elle fait oublier quand même l'autre, le socle de tout cet aspect-là. Enfin, quand c'est utilisé dans un cerveau, c'est utilisé pour analyser l'information émotionnelle, l'information corporelle qu'on ressent dans le monde dans lequel on est. Et finalement, dans tous les exemples que vous avez traités jusqu'à présent, y compris l'exemple Ellie de cette psychologue virtuelle, elle peut très bien avoir une base de connaissances extrêmement importante sur les indices physiques qui permettent de déceler telle ou telle pathologie, mais n'empêche qu'elle n'aura pas d'empathie. Autrement dit, elle ne va pas se mettre à la place d'eux, donc il y a aussi une caractéristique, probablement la caractéristique la plus importante pour un psychologue, et même pour un être humain qui interagit finalement, c'est si je vous comprends, c'est parce que je peux me mettre à votre place, que j'ai un corps comme le vôtre, et donc c'est en vivant dans mon corps cette expérience-là que je suis capable d'agir et d'interagir avec vous.
Mais alors comment allons-nous partager cette énorme sphère, je vais dire cloud, hein, pour être à la mode, d'intelligence qui est à notre disposition aujourd'hui? On ne va pas parler d'Eli, on va parler de Watson. Watson, super ordinateur IBM, qui a démontré qu'il était plus efficace dans le diagnostic de certains cancers, en particulier le cancer de la langue, plus efficace que les oncologues. 90% de réussite pour l'ordinateur, 50% pour les oncologues. Donc l'oncologue, il va devenir copain avec Watson. Et on va rejoindre ce que nous disait à l'instant Monsieur Dubé, c'est que probablement quelque chose qui va relever de l'affect peut tout à coup unir et l'oncologue et Watson.
Voilà, et donc c'est bien l'aspect complémentaire ici qu'on met en avant. L'exemple a déjà été donné avec l'assistant virtuel pour le médecin qui va l'aider à fouiller dans des bases de données pour ne pas perdre son temps et en fait pour être plus efficace que le médecin pour chercher cette information-là. De la même manière, on peut dire aujourd'hui que les robots chirurgicaux sont plus précis. Mmh. Si on parle de la distance entre les points de suture, du niveau de précision du geste, ils sont plus précis que les chirurgiens. Mais bien sûr, ils vont pas remplacer les chirurgiens dont l'analyse et la compréhension globale de la scène chirurgicale restent indispensables. Donc c'est pour ça qu'actuellement, il y a beaucoup de recherches aussi qui vont vers la robotique de collaboration, qu'on appelle aussi de la cobotique, autrement dit de dire il ne s'agit pas de remplacer une machine par un être humain, mais il s'agit d'insérer une machine dans un processus humain, et bien sûr de garder l'humain dans la place, parce que l'humain apporte une dimension émotionnelle, corporelle, qui aujourd'hui est irremplaçable. Donc finalement, les systèmes qui peuvent être les plus efficaces, c'est pas de pousser l'humain de côté pour automatiser quelque chose avec une analyse sans âme et sans émotion de la situation, c'est demander comment est-ce que le robot, finalement qui n'est qu'un outil, et c'est quand même la définition, c'est une machine, c'est un outil, un automatisme, comment est-ce qu'il peut venir soulager l'être humain de certaines fonctions qui effectivement ne sont pas les fonctions sur lesquelles il est le plus efficace, et ce qui va permettre de se concentrer sur ce qui est important dans sa relation à l'autre.
Est-ce qu'il est absurde de poser la question d'une évolution darwinienne pour les robots? Je m'explique. Dans la mesure où cette fameuse loi de Moore dont on ne cesse de parler, qui dit que je ne sais plus combien les performances des machines sont multipliées par un coefficient important, l'intelligence va fabriquer de l'intelligence. Enfin, cette intelligence que vous avez qualifiée vous-même, hein, qu'on met dans les machines, va elle-même fabriquer de l'intelligence. Cette intelligence permettant à la machine de s'adapter à son environnement. Donc, d'être d'une certaine façon dans une évolution darwinienne. Jusqu'où ?
Alors, ça restera, de toute façon, cette évolution, elle restera sur les capacités combinatoires, mathématiques, logiques. Et donc, ça reste, enfin, c'est quelque chose qui n'est pas viable en soi. Enfin, si c'est pas associé à une analyse plus humaine d'une situation, c'est pas quelque chose qui est viable. Et donc, c'est bien pour ça que, aussi, il faut faire attention à tous ces systèmes dont on parle. Parce que si on les laisse agir seuls, il va manquer une dimension humaine d'analyse et de décision. Et c'est effectivement ce que Gérard Dubé disait tout à l'heure quand il évoquait la place du troisième homme dans le pilote. Finalement, ce qui est le plus important, mais qu'on oublie souvent, c'est finalement les décisions humaines qui ont été mises à certains moments pour permettre aux robots de travailler. Alors, je peux donner quelques exemples. Si on considère, par exemple, aujourd'hui les logiciels de trading à haute fréquence, vous savez, ces systèmes qui permettent de vendre et acheter des actions extrêmement vite, c'est clair qu'ils sont plus efficaces que nous par rapport à leur capacité, à leur vitesse de traitement et la quantité d'informations qu'ils peuvent stocker. Mais finalement, ces logiciels-là, qui est-ce qui leur donne le but de leur travail? Qui est-ce qui leur dit que le but, est-ce que c'est de faire uniquement de l'argent ou est-ce que c'est de faire attention aux économies locales, au développement agricole dans les pays pauvres, etc. Ça, c'est pas le logiciel lui-même qui définit ça. C'est bien l'être humain qui est derrière. Et donc, le concepteur du programme, tout comme le concepteur de l'avion et du système informatique, a une responsabilité énorme quand il va définir ça. Et ça, c'est quelque chose qui est trop souvent non dit, qui est trop souvent caché. Donc, moi, je pense que c'est vraiment important de faire comprendre cette construction entre l'intelligence humaine associée à l'intelligence robotique, parce que les humains ont une responsabilité énorme et donc ils ont tendance à cacher dans la définition de ces systèmes du futur.
Une dernière chose, on n'aura pas le temps de l'épuiser parce que dans 2 minutes, il faudra laisser la place au journal de 13h. Mais je vois que certains s'interrogent sur le statut juridique du robot, qui renvoie d'un certain point de vue à la question de la controverse de Valladolid. Vous savez, les Indiens avaient-ils une âme? Et les robots? Et quel est le statut juridique du robot? C'est une question vertigineuse, parce que si on la pose, c'est qu'on se pose de façon plus ou moins indirecte la question de son humanité, peut-être.
Oui, il y a un autre exemple qui a défrayé la chronique ces derniers temps. C'était aussi une question, justement, une question sur les aspects juridiques. Vous savez, avec les voitures automatiques que oui. Google commence à développer et à utiliser, finalement, la question, c'est si un jour une voiture décide de faire une manœuvre avec une faible probabilité de blesser un être humain, en sachant qu'en contrepartie, elle va éviter un accident avec des dégâts matériels énormes, donc ce qui pourrait être éventuellement, du point de vue de l'assurance, quelque chose qui soit rentable, entre guillemets, à ce moment-là, qui est responsable de cet accident et qui doit payer pour les assurances et ainsi de suite. Et cette fois-ci, je pense que, en tout cas pour le moment, la réponse est claire. Pour le moment, c'est l'ingénieur, le designer de ce système-là. S'il introduit une espèce de valeur margeante à un être humain en disant à la voiture, finalement, toi, tu n'as qu'à faire les statistiques et puis calculer et trouver par toi-même la conclusion qu'il vaut mieux blesser légèrement quelqu'un plutôt que de détruire une installation complète, à ce moment-là, la responsabilité sera de l'opérateur humain qui aura créé ce système. Et ça, on a besoin de lois qui n'existent pas aujourd'hui pour rendre ça explicite.
On y reviendra tout à l'heure, et peut-être aussi avec les questions de celles et ceux qui nous accompagnent dans le studio 621. On va faire une petite pause avant le journal de Philippe Habitboul dans un instant. À tout de suite.
13h30, il est temps pour nous de retrouver la suite de 3D, le journal, avec Stéphane Paoli.
Et de retrouver Brigitte Forest, Les Robots, émission qui a été inspirée d'ailleurs par la revue pour la science, qui consacre son numéro d'avril et de juin aux robots, avec comme titre Les Robots en quête d'humanité. Et nous en parlons aujourd'hui avec Frédéric Alexandre, qui est ingénieur en informatique et qui est directeur de recherche à l'INIRE, l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique. Et il est le directeur aussi du projet Mnemosyne à l'Institut des Maladies neurodégénératif de Bordeaux. À ses côtés se trouve Romain Lucaseau, qui est manager chez Roland Berger. Roland Berger étant un think tank allemand qui s'intéresse à des grandes questions de société et qui a publié une étude intitulée « Les classes moyennes face à la transformation digitale » qui est parue en octobre 1914. Mais pourquoi 1914? J'arrête pas de dire des conneries,
oui,
moi,
depuis
aujourd'hui.
Tout à l'heure,
2014. Hein. Chef, il me faudrait un petit robot, moi. Mais mettez un robot à ma place, ça valait beaucoup mieux. Et puis, il y a Gérard Dubé, professeur de sociologie à Télécom, école de management et chercheur au Centre d'études des techniques, des connaissances et des pratiques à l'Université Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Et puis, évidemment, qui me surveille avec attention, et elle a bien raison. Aurore Vincenti. Allez, 3D continue, vaille que vaille.
Le journal de Stéphane Paoli.
Et il est évident que sur une question aussi passionnante et complexe, hein, la place que les robots vont tenir dans notre société, on n'a pas tout dit en une heure, mais on a fini la première partie de 3D tout à l'heure sur une question que j'ai envie que nous prolongions ensemble maintenant, qui était la question du statut juridique des robots. Mais avant ça, je sais que les chercheurs ou les sociologues, les spécialistes que vous êtes, se sont posés avec d'autres la question éthique engagé par une telle évolution de notre société. Qu'est-ce que vous en diriez vous-même, Romain Lucaseau ?
De notre point de vue, la principale problématique, c'est qu'est-ce qui va se passer en termes de transformation de l'emploi ? Et ça implique un enjeu collectif d'adaptation du système de formation, du système économique global à cette nouvelle réalité. Et là, il y a un enjeu éthique. C'est-à-dire, notre point de vue, c'est que il va pas y avoir de... Il y a deux scénarios possibles. Il y a un scénario où la transformation, l'automatisation massive qu'on va connaître, va être créateur d'emplois nets. Et un scénario où ça va être plutôt un moment de destruction qui va être difficile. Et ça dépend énormément des choix collectifs qui vont être faits. Vous voyez, la question, elle se pose comme ça. Et de ce point de vue-là, les problématiques en lien avec la transformation de la formation initiale, la transformation de la fondation, la transformation de la formation continue, en particulier dans un pays comme la France, où il y a plus de 10% de chômage, sont des questions qui devraient être, qui ne le sont pas forcément aujourd'hui, extrêmement centrales dans le débat politique.
Et pour le sociologue Gérard Dubé, au moment où dans notre société, d'ailleurs on a consacré un 3D à cette question qui elle aussi est très intéressante, beaucoup s'interrogent sur le statut juridique des animaux, notamment par rapport à la question de la douleur et de la souffrance au moment de l'abattage des animaux par exemple. Et voilà que maintenant on se pose la question du statut juridique des robots.
Oui, alors là, je pense que là, il faut faire attention aussi au glissement sémantique et aux confusions. Lorsqu'on parle d'un animal, il peut y avoir une relation d'empathie avec l'animal parce que c'est un être vivant. Et donc, qui sait ce que veut dire souffrir, qui sait ce que veut dire peut-être mourir, ça ne sait pas. Il y a pas mal d'éthologues qui se posent ces questions aujourd'hui sur la dimension culturelle dans le monde animal. Mais en tout cas, avec une machine, le rapport est tout à fait différent et étranger à ça. Il peut pas y avoir d'empathie, de relation d'empathie avec un robot, puisque un robot, à la limite, va pouvoir simuler des émotions, reproduire techniquement des émotions, des situations d'affect, mais il ne les ressentira pas. Et il ne sait pas ce que c'est que perdre un proche, ce qu'on éprouve lorsqu'on perd un proche. Bon, voilà. Donc là, la question de ce point de vue-là me semble un peu piégée, quoi. De parler de statut juridique du robot par comparaison avec un statut juridique de l'animal, je pense que les deux domaines sont quand même très distincts.
Mais le simple engagement de l'idée d'un statut juridique, d'une certaine façon, humanise la question de la robotique.
Oui, c'est peut-être... Là, je trouve ça plutôt inquiétant dans ce sens-là, si c'est pris dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un transfert important sur la machine de facultés, de particularités, de spécificités qui appartiennent au vivant. Donc là, c'est ce glissement sémantique, je pense qu'il faut y faire quand même très très attention. Mais il y en a d'autres, des glissements qui me semblent tout aussi importants dans le domaine de l'expérience ordinaire, mais j'y reviendrai peut-être.
Bien sûr. Frédéric Alexandre, il y a quelques jours, nous étions en Guadeloupe pour l'inauguration d'un bâtiment qui est consacré à l'histoire de l'esclavage. Et nous disions, avec tous ceux qui étaient avec nous présents, les historiens les premiers, que ce qui était terrible dans le code noir, c'est qu'on avait fait passer l'humain du statut de sujet à celui d'objet, de meuble. Où classer les robots ? Les robots sont-ils des meubles ? Ou sont-ils déjà autre chose s'approchant de que façon que ce soit, d'une forme d'humanité.
Si je puis me permettre, les objets sont des meubles et n'en sont pas dans la mesure où ils sont automobiles. Un meuble est mobile. Un robot, en théorie, il est automobile. Ou alors, il est entre le mobile et l'automobile. Il se meut lui-même, mais il est dirigé, orienté par l'humain. Donc, déjà, premier éclairage étymologique, à vous l'antenne.
Frédéric Alexandre.
Oui, donc on pourrait effectivement revenir sur cet aspect-là, mais le point le plus important à souligner, c'est que un robot, c'est un tas de ferraille, éventuellement avec quelques circuits intégrés relativement coûteux, mais que ça reste une machine, et tout comme un ordinateur. Enfin, il y a des grands chercheurs de notre domaine qui se plaisent souvent à répéter cette grande affirmation, un robot et un ordinateur, c'est con. C'est quand même bien ça qu'il faut comprendre, c'est malgré toutes les projections, tous les fantasmes qu'on peut se faire sur ces machines, ça reste de simples machines. Mais par contre, effectivement, comme Aurore le disait tout à l'heure, le fait que ce soit des machines particulières parce qu'elles ont été programmées par un être humain, les rendent un peu différents. Et donc à ce moment-là, il faut être très vigilant sur la manière dont l'être humain va le programmer et la manière dont il va l'utiliser. Et c'est là où la responsabilité du robot pourrait être engagée indirectement via l'être humain qui a participé à cette programmation. Donc c'est assez compliqué. Et donc c'est bien pour ça qu'il faut anticiper ça et avoir des comités d'éthique, avoir des réflexions aussi au niveau des citoyens. Je pense que c'est vraiment quelque chose. Ça ne peut pas être les chercheurs seuls qui aient à gérer ce problème-là. Et je pense qu'il faut qu'on se saisisse au niveau collectif avec les sociologues, avec les philosophes, avec les médecins pour qu'on ait des réponses claires à ces questions-là, parce qu'il y a des risques, effectivement, des risques réels, mais non pas en tant que le robot qui devient autonome et qui devient fou, mais en tant que on n'arrive plus à comprendre l'impact qu'aura la patte de l'être humain qui a été programmé et préparé cette machine dans les résultats qui vont advenir ensuite.
Gérard Dubé, je vous en prie. Oui.
Juste pour prolonger ce qui vient d'être dit, je crois qu'évidemment il est important qu'il y ait un débat qui implique absolument toutes les disciplines, mais également le public. Quoi. Donc il y a une nécessité d'un débat, de vrai débat public. Donc alors là, sous quelle modalité, je ne sais pas, mais là je crois que ça dépasse largement le domaine des experts.
Il y a une chose qui est extraordinaire, on n'aura pas le temps de la raconter en détail, mais je sais que vous le connaissez, Frédéric Alexandre. Pierre-Yves Houdayé est venu souvent dans 3D. Et Pierre-Yves Houdayé, à l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, est l'un des précurseurs de la mise au point du langage des robots. Et pas du tout que les robots se mettent à parler comme vous et moi. Non, non. Les robots créant leur propre langage, leur propre système de communication entre eux. Et Pierre-Yves Houdayé est parti de l'observation du comportement des petits-enfants, des bébés, du babillage des bébés, pour mettre au point des algorithmes qui vont permettre aux robots de créer leur propre langage. Où sommes-nous ? Dans quelle sphère sommes-nous à partir de ce type de comportement ?
Et là aussi, je pense que c'est important de dissocier dans toute fonction cognitive, donc y compris le langage. Il y a une partie formelle, syntaxique. Quand on parle, il faut créer une phrase qui corresponde effectivement à une phrase d'un point de vue syntaxique, d'une part. Et d'autre part, il y a vraiment la partie sémantique qui est de dire, c'est le ressenti. Si je choisis certains termes, si je choisis certains mots, c'est bien parce que, en tant qu'être vivant, dans ma chair, qui souffre et qui a du plaisir, je suis capable de donner un sens vraiment très particulier au concept que j'utilise. Et donc, le langage, tout comme énormément de raisonnements, de décisions, par exemple, est un subtil mélange entre ces deux aspects. L'aspect formel, d'une part, et puis l'aspect de finesse dont parlait Pascal. Alors, c'est sûr ensuite que Pierre-Yves, quand il s'intéresse au développement cognitif des bébés, ou même dans mon équipe, quand on s'intéresse à essayer de comprendre les maladies neurodégénératives, on va justement sur cette frontière, on va justement essayer de trouver le lien et comment se construit dans le cerveau humain cet assemblage subtil entre les aspects mécaniques, logiques, combinatoires, qui existent aussi dans le cerveau, mais bien moins puissants, bien sûr, que dans l'ordinateur, avec d'autres aspects corporels, incarnés, et là, qui sont vraiment, en tout cas pour l'instant, l'apanage exclusif du vivant.
Et par exemple, ce qu'Aurore évoquait en ouverture de l'émission tout à l'heure, lorsqu'elle a parlé de l'intuition. L'intuition ne peut pas répondre à une performance mathématique ou à des associations d'idées, ou le peut-elle ?
Alors, On peut parler d'intuition, on pourrait parler de la créativité. On a justement essayé comme ça de définir un certain, ou même de conscience, si on avait un peu plus de temps. On a comme ça.
La question est posée dans la revue pour la science, où il y a même un dessin formidable, type un peu Bilal, où on voit un robot avec son mécanisme métallique, l'objet robot, se regarder dans une glace. Et avec peut-être la capacité d'identifier sa propre image, ce qui serait le début d'une forme de conscience.
Voilà. Donc effectivement, tout comme le langage, quand on parle de ces autres concepts-là, on est toujours à la frontière où on voit quand même certains aspects qui sont très mécanisables, et donc où on peut effectivement reproduire des semblants d'eux, et puis d'autres aspects qui restent pour l'instant complètement l'apanage du vivant. Donc effectivement, il y a de la recherche sur ce genre de sujet, et où on va essayer de donner des débuts de réponse, mais pour l'instant en étudiant uniquement la capacité combinatoire à partir de bases de données artificielles et de connaissances artificielles injectées par le programmeur, et c'est pas le système lui-même qui se crée sa propre expérience corporelle vivante du monde.
Romain Lucaso.
Oui, si je peux juste ajouter une chose, on a longtemps vécu sur l'idée que en fait l'automatisation ça portait sur des actes physiques mécaniques. En fait, ça porte aussi sur des actes intellectuels mécaniques, et dans les choses qu'on fait au quotidien. L'exemple de la calculatrice, mais d'autres plus compliqués, il y a énormément de choses qui sont très mécaniques. On apprend un certain processus intellectuel pour aller d'un point A à un point B qui se répète indéfiniment. Il y a beaucoup de métiers comme ça. Et ça, c'est très automatisable. Et c'est un peu ça qui est nouveau. C'est la dématérialisation de l'automatisation des processus.
Il y a aussi une chose, Gérard Dubé, que je trouve troublante, qui revient au fond à cette question d'éthique qu'on esquissait tout à l'heure. Prenons le cas du Japon. Japon, pays vieillissant, avec un nombre important de personnes âgées, qui peuvent disposer maintenant à domicile de la présence d'un robot qui, pour certains d'entre eux, ont un visage humain. Et tout à coup s'instruit, entre la personne âgée et le robot, une relation où l'affect a sa part. Et ça, c'est quelque chose aussi de vertigineux.
Oui, alors Chéri Turkel a beaucoup travaillé sur ces questions aussi. Alors... Il y a une grande part de projection, évidemment, de transfert. Le robot, c'est un peu un miroir de ce qu'on y met. Hein. Là, il y a plusieurs questions et plusieurs thèmes dans votre remarque. Là. Au Japon, on a tendance à répondre à la question du vieillissement de la population par la mise en place de dispositifs robotiques, de robots, de machines. Parce qu'on est très peu tolérant à l'étranger. Et là, puisqu'on est dans l'éthique, ça suscite chez moi une question. C'est, j'ai parfois le sentiment quand même qu'on est peut-être plus hospitalier et accueillant vis-à-vis de robots, de machines, que vis-à-vis des bot people, par exemple, dont on parle communément, couramment dans l'actualité. Ça pose une grande question quand même. Un des arguments aujourd'hui pour développer ces robots sociaux, ces robots d'assistance aux personnes âgées, c'est de dire, bon voilà, vieillissement de la population, baisse du nombre des jeunes actifs, donc finalement manque d'humains. Mais où est le manque d'humains, objectivement? Où est-il ce manque d'humains? Je ne pense pas qu'on manque d'humains, donc là il y a un véritable choix de société, il y a une orientation, il y a une intention derrière ça. C'est peut-être ça qu'il faut interroger, c'est peut-être ça dont il faut débattre. En premier lieu, sur le plan éthique. Donc c'est éthique et politique, évidemment. Mais voilà, c'est ce rapport à l'étranger, à l'inconnu aussi, qui me semble très, très, très important.
C'est une très forte question.
Et là, ça me renvoie à autre chose qui touche à l'expérience. Alors, moi, ce qui m'intéresse dans la robotique personnelle, la robotique d'assistance, c'est, ou même nos interactions quotidiennes avec les objets informatisés, avec les machines, c'est en quoi ça change l'expérience ordinaire, l'expérience sociale, l'expérience vécue ordinaire. Et là, par exemple, si je prends le cas des smartphones ou du GPS, par exemple, là, je passe à autre chose. Hein. On a peut-être une tolérance qui devient de moins en moins grande à l'inconnu, à l'étranger, à l'imprévu. On veut des choses. On attend plus de certitude, plus de précision, plus de rapidité dans la réponse. Et par exemple, dans la rue, on va moins facilement peut-être s'adresser à un inconnu pour demander sa route. Mais s'adresser à un inconnu pour demander sa route, c'est établir une relation. C'est apprendre dans une relation, c'est apprendre à regarder autour de soi, c'est apprendre à lire un visage, c'est aussi développer son attention, et développer son attention, c'est aussi développer son intuition. Donc je veux dire, il y a une transformation très insidieuse et très presque invisible de l'expérience ordinaire dans le côtoiement, dans l'usage familier et quotidien de ces outils, qu'il faut interroger, à mon avis, qui qui pose question, en tout cas.
C'est une très, très belle question, en tout cas. Aurore, oui.
Oui, je vous rejoins sur ce sujet. C'est, en fait, je me demande s'il ne faut pas plutôt craindre, dans ce fantasme, hein, du robot qui prendrait le dessus. Bon, là, ce n'est pas linguistique du tout, hein, c'est une remarque personnelle. S'il ne faudrait pas plutôt craindre l'inhumain dans l'humain que l'humain dans le robot, finalement. Voilà.
Non, c'est une bonne remarque. Alors, les questions.
Merci, maître.
Madame, bienvenue à vous.
Merci beaucoup. Bon, moi, je suis médecin, donc je suis très intéressée par l'aide au diagnostic qu'apportent toutes les nouvelles technologies, qu'apportent les bases de données pour libérer du temps dans la relation médecin-malade. Mais je pense que malheureusement, on a beaucoup, beaucoup amélioré la science, le diagnostic et les traitements. Mais la relation médecin-malade, je ne suis pas sûre qu'elle se soit. Parce que ça aide au diagnostic, à la maladie, au traitement de la maladie, mais au traitement du malade. La relation médecin-malade. Et ma deuxième question qui me fait peur, c'est qu'effectivement, avoir des robots, des ordinateurs qui font tout, est-ce que notre cerveau, est-ce qu'il ne va pas s'involver? Parce que effectivement, on ne pense plus, on ne cherche plus, tout est sur... Il faut qu'on ait la machine. Alors quand on n'a plus la machine, enfin, le machine, c'est le téléphone.
Alors, sur l'abandon de notre propre cerveau et la délégation aux machines, les effets de tout ça?
Oui, donc les effets sont extrêmement dangereux. Je reprends l'exemple dont on vient de parler juste avant sur des robots qui sont installés dans les domiciles des personnes âgées. Donc là, certaines études montrent qu'il ne faut surtout pas que le robot fasse tout. Ce qu'il faut, c'est que le robot soit en harmonie, soit en association avec la personne et non pas la remplace. Et en gardant bien sûr ses spécificités. Donc typiquement, on peut dire un robot, c'est utile parce que ça a une mémoire qui est fiable. Donc avoir un système qui permet de rappeler à une personne âgée qu'elle a oublié de prendre ses médicaments, qu'elle a oublié d'éteindre le feu sur le gaz, etc. Ça, c'est quelque chose qui est utile, mais c'est pas l'idée, c'est de pas tout faire, de pas remplacer la personne, mais c'est d'être le plus discret possible dans la vie quotidienne et puis de venir intervenir au moment où c'est utile. Et c'est comme ça que l'acceptation sera la meilleure. Donc une fois de plus, on n'est pas dans la robotique qui remplace l'être humain, on est plutôt dans essayer de trouver une manière de d'associer ces deux compétences. Le robot, il est bon parce qu'il a une mémoire qui est fiable. Il est bon parce qu'effectivement, il peut calculer plus vite que vous et faire une combinatoire plus avancée que la vôtre. Et ça, il faut l'associer avec l'analyse humaine de la situation, la compréhension de la situation. Et c'est là, dans ce cas-là, que le mariage va être le plus fécond.
De la même façon, Romain Lucazou, pour la première partie de la question, il y a en effet la performance du diagnostic par la machine, mais il y a l'enjeu de la relation au malade. Dans ces nouveaux emplois que nous évoquions avec vous tout à l'heure, il y a peut-être quelque chose là qui va et renforcer l'action du médecin, mais peut-être développer aussi d'autres champs possibles dans le domaine de la médecine, à commencer par celui tellement important de la relation malade-patient.
En fait, c'est une tendance...
Malade-médecin.
C'est une tendance qui est complètement intrinsèque au développement des économies depuis un siècle et demi. Les gains de productivité, c'est bien des choses qu'on réinvestit dans les attentes des clients, les attentes des publics, quand il s'agit d'administration, en enrichissant la qualité de la prestation, qu'elle soit commerciale, administrative, etc., avec des dimensions supplémentaires. Donc, quand vous êtes une entreprise, vous avez toujours le choix entre réduire votre effectif et faire la même chose avec plus de productivité, ou ajouter des dimensions supplémentaires à votre service, de façon à être plus compétitif, à redéfinir ce que nous, on appelle la proposition de valeur de l'entreprise ou de l'administration, parce que ce sujet, il se pose, par exemple, pour l'emploi, la sécurité sociale, etc., etc. Une fois que vous avez libéré du temps des agents du secteur public parce qu'ils font moins de tâches administratives, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous les prenez, comme les banques l'ont fait il y a 20 ans, et vous les mettez en relation avec l'usager pour essayer d'améliorer la relation avec l'usager.
Vous insistez beaucoup hein, sur les nouveaux emplois qui procéderont de la relation au client.
Ouais, je pense que c'est le point vraiment clé. Et ça va un peu plus loin que la simple relation au client. C'est aussi qu'il y a un potentiel de développement de ce qu'on appelle l'économie quaternaire, dont on est absolument incapable de dire quels sont ses contours, mais dont on sent bien que son contenu, ce sera le relationnel, le rapport à l'autre, le soin. des fonctions qui ne sont pas des fonctions automatisables, la créativité, des fonctions qui ne sont pas forcément automatisables. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans, mais on sent bien qu'une fois qu'on aura libéré du temps et de l'argent pour faire d'autres choses, c'est vers ce genre de choses que les sociétés occidentales iront.
Créativité, c'est un point très important. Et quand vous disiez tout à l'heure, Gérard Dubé, qu'il faut apprendre, il faut donner à connaître, et peut-être même dans les écoles d'ailleurs, hein, ce changement de paradigme et de société, pourquoi pas. Si à la clé derrière, il y a en effet l'enjeu de la créativité, c'est la meilleure nouvelle du monde, ça. Parce que ça ouvre toutes les portes, la créativité. Ça nous oblige à nous remettre en cause, à chercher, enfin...
Quand on enseignait, enfin moi j'enseigne les sciences politiques, quand vous enseignez les sciences politiques il y a 10 ans, il n'y avait pas Wikipédia en accès sur les smartphones et les ordinateurs, et vous pouviez faire beaucoup de transmissions de contenu, de données, les dates, les grands hommes, les choses comme ça. Quand vous avez une classe où tout le monde est connecté et où tout le monde a accès effectivement à la page Wikipédia du cours en question, ça n'a plus tellement d'intérêt de leur donner une liste de données brutes, en fait. Donc, vous voyez, le métier migre, même les métiers qui existent et qui ne vont pas disparaître, ils migrent. Donc, vous arrivez et vous donnez de l'interprétation, du sens, et beaucoup moins de contenu. Ah.
Sinon que le travail pédagogique n'a jamais consisté à délivrer des connaissances brutes ou des informations. C'est toujours une relation. La pédagogie, c'est une relation, c'est un savoir qui se construit dans une relation. Il n'est jamais complètement prédéterminé, prédéfini. Mmh. Et la difficulté, mais là on sort un petit peu quand même du domaine de la robotique, c'est tous les dispositifs de téléapprentissage, de téléassistance ou même de télédiagnostic dans le cas de la médecine. C'est la question c'est-à-dire la distance. Voilà. Comment on reconstruit une relation, y compris une relation, un collectif, à partir de cette distanciation. Les cours à distance sont des cours plutôt individualisés. Donc on n'a plus un collectif, on n'a plus une salle avec des corps qui se voient, qui se perçoivent, qui échangent de façon très fine. On perçoit des, lorsqu'on enseigne, on perçoit des indices très très fins, qui sont des expressions de visage, des gestes, des voix, voilà, on réagit à cela. C'est le cours, il se construit sur cette base-là. Toute cette connaissance-là, qui fait partie de la pédagogie, que devient-elle dans les dispositifs téléassistés?
C'est
autre chose, quoi.
C'est la dimension corporelle de l'intelligence, telle qu'évoquée tout à l'heure par Frédéric Alexandre, qu'il ne faut jamais dissocier du reste, évidemment. Voilà.
Et effectivement, une autre dimension importante au cours de l'apprentissage, c'est l'envie, la motivation, et qu'est-ce qui fait que des jeunes ont les yeux brillants quand on est en train de leur expliquer certains phénomènes, c'est bien, voilà, ou pourquoi est-ce que certains ont eu une carrière importante parce qu'ils sont tombés devant leur prof de maths ou leur prof de français qui leur a dit les mots qu'il fallait au moment où il fallait pour les transporter, et donc ça, c'est effectivement cette dimension corporelle, émotionnelle, empathique, qui fait qu'on ressent et aujourd'hui qu'on... C'est quand même l'être humain qui reste le vecteur le plus efficace pour ce genre de sentiments.
Oui, Gérard Dubé,
pour continuer encore dans cette direction. Oui, c'est ça, c'est le désir et le plaisir. Alors, le plaisir à apprendre, il naît de quoi? C'est parce que souvent, on désire attirer l'attention de l'enseignant. On désire quelque part qu'il vous reconnaisse, de lui faire plaisir. Donc, c'est extrêmement relationnel, tout ça. Voilà.
Et tant mieux. La radio, vous savez, c'est un peu comme ça aussi. Hein. Une autre question? Oui, je vous en prie.
Oui, vous m'entendez? J'ai une autre question sur le point de vue des inégalités sociales. Donc, vous parliez des cols blancs et des cols bleus. Est-ce que ça va impacter les différentes catégories sociales de la même manière? Qu'est-ce que ça va changer en termes de structure sociale? C'est-à-dire, est-ce que on aura un chômage plus important chez les cols bleus? Est-ce qu'il y aura un temps d'adaptation, un passage à la nouvelle économie? Et j'avais une autre question un peu plus, enfin c'était plus court, sur les matières premières, parce qu'on a beaucoup parlé par exemple des terres rares qui avaient une importance dans la nouvelle économie. Est-ce qu'il y aura une matière première stratégique à l'avenir?
Alors, les deux questions sont intéressantes. La première est vraiment passionnante, elle mériterait à elle seule une émission complète. C'est-à-dire, comment ce phénomène que vous décrivez les uns les autres depuis tout à l'heure est en train de modifier les structures même sociales de notre société?
Le phénomène principal qu'on peut anticiper, c'est un phénomène où c'est plutôt un risque de polarisation. Un risque de polarisation sociale qu'on voit déjà aux États-Unis. On ne le voit pas en Europe, parce qu'en Europe, on a des très lourds mécanismes de protection sociale qui redistribuent la richesse, et donc il n'y a pas eu d'évolution notable des inégalités globalement dans les pays européens. Aux États-Unis, Avec l'émergence de la nouvelle économie, vous voyez effectivement une polarisation accrue avec un renforcement de la part des 1% plus riches dans la richesse globale du pays qui est passée en 10 ans de 44 à 51%. Il y a une problématique de transformation des chaînes de valeur que vous voyez déjà quand vous réservez votre billet d'avion via Expedia. C'est Expedia qui prend une partie, Expedia qui n'existait pas il y a 10 ans, qui prend une partie de la valeur, et cette valeur, elle est prise aux producteurs, compagnies aériennes, hôteliers, restaurateurs, demain le musée du Louvre, etc. Et cette richesse, elle se concentre dans des entreprises qui sont extrêmement automatisées. La force d'Expedia, c'est la puissance de ses logiciels. Mmh. C'est pas des centaines de milliers de personnes qui travaillent en back-office, voyez. Et donc, cette concentration de la richesse dans des entreprises de la nouvelle économie, elle posera un problème, effectivement, en termes d'évolution de la structure des catégories socioprofessionnelles et de la ventilation de la richesse au sein des pays. Ceci étant dit, c'est une question de choix collectif aussi. C'est-à-dire, c'est un modèle américain qui est très orienté vers la concentration et la transformation des chaînes de valeur. Sans doute qu'en Europe, la transformation sera plus lente. Et sans doute que les systèmes de protection sociale feront en sorte, effectivement, que cette évolution soit plus douce.
Alors maintenant, l'autre partie de la question est intéressante aussi sur les matières premières qui sont de plus en plus rares. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Or, pour fabriquer des robots, il faut parfois des matériaux ou des produits qui sont de plus en plus rares. Comment les choses peuvent-elles se passer et qui aura accès aux robots? Les pays riches et puissants et les autres devront regarder passer les robots?
Juste une anecdote là-dessus. Aujourd'hui, quand une usine automobile s'ouvre en Chine, elle est beaucoup plus automatisée que la même construite il y a 20 ans en Europe. Mmh. Donc il n'y aura pas de différence de type pays du Sud, pays du Nord ou pays en voie de développement. Enfin, la Chine n'est plus un pays en voie de développement, mais pays en cours d'émergence et pays développés. L'automatisation, surtout dans sa dimension logicielle, mais aussi dans sa dimension physique, c'est un fait qui est global aujourd'hui.
Sauf que la Chine est en train de développer une stratégie militaire assez préoccupante, notamment en mer de Chine, pour occuper des territoires où se trouvent beaucoup de matières premières. Donc la question des matières premières est une question géopolitique importante à terme.
Oui, mais quand on voit
Frédéric Alexandre.
Quand on voit l'évolution des coûts dans ces nouvelles technologies, c'est clair que la partie matière grise est celle qui prend le plus en plus de place. Donc c'est pour ça que quand on parlait tout à l'heure de matière première stratégique, moi je dirais plutôt ce qui est critique là, c'est plutôt de dire des grands acteurs comme Google qui ont une position de monopole et qui sont privés et donc qui quelque part possèdent une certaine partie de la connaissance du monde et de la manière d'accéder à cette connaissance-là, je pense que le danger est beaucoup plus là que dans les terres rares, en tout cas pour ce qui concerne le domaine qui nous concerne ici.
Une toute dernière chose, Romain Lucaso, quand Bill Gates, dans la revue Pour la Science, dit que de la même façon qu'il y a maintenant un ordinateur dans pratiquement toutes les familles des pays développés, il y aura un robot dans très peu de temps dans toutes les familles, ça vous paraît utopique, un rêve de Bill Gates ou une réalité possible?
À ce stade, on ne voit pas très bien ce que le robot va faire chez vous, en fait. C'est-à-dire que la domotique, ça existe, c'est un secteur qui se développe, mais il y a des tas de choses qui ne font pas, il y a des tas de choses que vous aimez bien faire vous-même, comme la cuisine, etc. Donc on est assez loin on est encore assez loin en termes d'application, tout simplement des rêves des années 70, parce que voilà, c'est pas pertinent, quoi. Donc c'est sans doute un sujet à très long terme.
D'un mot, Gérard Dubé ?
Oui, même un robot à fonctionnalité simple comme un robot aspirateur dans un appartement parisien ou personne âgée, ça ne marche pas très bien.
Bien, merci à vous trois, c'est passionnant et je renvoie à les lectures décidément du numéro avril-juin 2015 j'ai bien dit 2015 cette fois et pas 1914 parce que vraiment je sais pas ce qui m'est arrivé avec 14 tout à l'heure mais j'allais pas m'en départir. Dossier pour la science, avril-juin 2015. Un mot de Paula qui dans un instant va prendre l'antenne pour son émission qui a pour titre Exil avec un S à Exil, une émission enregistrée au Théâtre de l'Odéon et qui est consacrée à l'écrivain et poète argentin Borges avec le témoignage du réalisateur lui aussi argentin Hugo Santiago et puis des textes et des poèmes lu par Denis Podalides, rien que ça. Merci à vous d'écouter France Inter, il est 14h15.